Bonjour à tous, nous sommes le dimanche des Rameaux, Olivier l'a dit, l'a rappelé, une semaine avant Pâques et Jésus rentre à Jérusalem. On lui déroule le tapis rouge, on forme une belle parade. Il y a un peintre belge, James Ensor, qui a peint l'entrée de Jésus à Bruxelles. Vive la sociale, ça sent bon le Front Populaire, etc. Mais bon, bref, il y a de la joie, il y a des couleurs, il y a du mouvement, il y a des banderoles, il y a peut-être une baraque à frites quelque part, si vous regardez la... Mais pour l'entrée de Jésus à Jérusalem, il n'y a pas de carrosse décorée, mais il y a un ânon. Il n'y a pas de confetti, mais il y a des branches de palmiers. Personne n'est déguisé, mais il y a des vêtements qu'on jette de ci, de là. Et c'est quand même pas mal comme parade. Mais ce qui est frappant dans cette histoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est l'énorme malentendu. Le dimanche des Rameaux ou le grand malentendu. Et déjà, il y avait eu des malentendus dans la bande de disciples qui suivaient Jésus. Par trois fois, Jésus annonce sa mort sur la croix et par trois fois, les disciples ont une réponse décalée par rapport à cette annonce de la mort de Jésus. Il y aurait comme un malentendu. Dans Marc 8, 31, il annonce sa mort pour la première fois, Jésus. Et il parle d'une mise à mort à cause des autorités religieuses, et il en parle très clairement, et Pierre va réagir. Il va dire, non, Seigneur, jamais tu ne vas mourir, c'est pas bon pour ton image, n'en parle pas trop, Rabbi. Deuxième malentendu, une deuxième fois, un peu plus loin dans l'évangile de Marc, ils sont encore à Galilée et Jésus se consacre à ses disciples et il parle de la mort du Fils de l'homme par la main des hommes. Et quelle est la réaction des disciples? Jésus, il parle de lui, de sa mort prochaine. Eh bien, les disciples changent de sujet et ils s'occupent de savoir qui sera le premier dans le royaume de Dieu à la droite de Jésus. Et il parle de la question, qu'est-ce que j'ai marqué? Moi, je serai le premier et pas toi. Parce qu'il y a une question de primauté dans la bande de disciples. Et puis, il y a une troisième fois, en Marc 10, 32, Jésus prend de nouveau à part les douze et leur dit ce qui allait arriver, avec même quelques détails. Et réaction des disciples tout de suite après, Jacques et Jean pensent que c'est le bon moment, justement, encore une fois, pour qu'ils aient une place d'honneur dans la société future que Jésus va fonder. « J'aimerais bien être ton bras droit quand tu auras ta société », disent Jacques et Jean. C'est absolument incroyable, mais à chaque fois que Jésus parle de sa mort, il y a comme un blocage. Les disciples ne semblent pas comprendre. Ils ont bien entendu, mais ils n'ont pas compris. C'est plus qu'un malentendu, en fait. Ils ont très bien entendu. C'est plus comme, on dit malentendu en anglais, un misunderstanding, une mauvaise compréhension. Ils n'arrivent pas à comprendre Jésus quand il parle de sa mort. Et ici, pour l'entrée de Jésus à Jérusalem, le malentendu concerne la foule. Et il se concentre sur deux détails de l'histoire. L'ânon, dont Olivier nous a parlé, et les vêtements aussi, qu'on met sous les pieds de Jésus, ou sous l'âne qui porte Jésus. Alors, l'ânon est quelque chose que Jésus a voulu, et on l'a souligné tout à l'heure, tout a été préparé quelques heures avant, alors qu'il était encore qu'en banlieue de Jérusalem. Il a demandé à quelques disciples d'aller de l'avant ou à l'avant, et de demander de préparer les choses pour l'entrée à Jérusalem. Et tout se passe comme prévu, c'est assez extraordinaire. Ils trouvèrent l'ânon, et quand les gens demandèrent pourquoi ils prenaient l'ânon, ils ont répondu comme Jésus leur avait dit qu'ils répondraient. Les gens, en effet, ont laissé partir l'ânon. Jésus a voulu cet ânon, et il entre à Jérusalem sur cet animal, et ce choix est volontaire de la part de Jésus, qui veut rappeler le prophète Zacharie, qui disait quelques siècles à l'avance, « Oui, pousse des cris de joie à Jérusalem, regarde, ton roi vient vers toi, il est juste, victorieux et humble, il est monté sur l'âne, sur l'ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus a préparé ce geste pour poser un signe fort, pour dire qu'il est le Messie qui vient à Jérusalem et j'ai pas lu la suite, mais la suite de Zacharie, c'est « À Éphraïm, il supprimera les chars de guerre, et à Jérusalem, il supprimera les chevaux, il cassera les arcs de combat, il établira la paix parmi les peuples. » Jésus choisit l'annon de Zacharie pour montrer qu'il vient pour briser l'arc de guerre et pour apporter la paix. Il vient humblement, pas de chameaux, pas de caravane, pas de trésors dans les coffres, pas d'armes dans les bagages, pas d'escorte, juste une bande de disciples, assez faiblarde la bande. Et il vient sur un anneau, c'est lui le Messie. Et puis, le deuxième détail du malentendu, ce sont les vêtements. Les vêtements que l'on jette sur le chemin que prend Jésus. Et ce geste accompli par la foule est tout à fait spontané. L'anneau était préparé, mais les vêtements sont tout à fait spontanés. Et on pourrait s'en réjouir. Wow, c'est bien ce que fait la foule, mais en même temps, c'est étrange parce que ce geste de la foule vient contredire tout à fait le signe que Jésus voulait par l'anneau. L'anneau, l'humilité. Les vêtements, c'est à l'opposé. Pourquoi ? Parce que la seule référence que nous avons d'un tel comportement de gens qui posent des vêtements sous les pieds de quelqu'un se situe dans le deuxième livre des rois, dans l'Ancien Testament, avec le roi Jéhu. Nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ. Sur Israël règne un couple machiavélique, Achab et Jézabel, qui sont méchants comme des rats, et qui ont un fils, Joram, qui est roi d'Israël. Alors, quand la coupe est pleine, quand la méchanceté de cette famille, Adams avant l'heure, est pleine, Élisée, le prophète, choisit un roi pour nous en débarrasser. Et ce roi s'appelle Jéhu. Le serviteur d'Élisée lui donne l'onction pour sa mission, et les proches de Jéhu vont avoir un geste étonnant, devinez quoi ? Ils vont jeter leurs vêtements sous les pieds de Jéhu et il est dit dans 2 Rois 9:13, « Alors chacun d'eux se hâta de prendre son vêtement et le placer sous Jéhu en haut des marches. Ils sonnèrent de la trompe et dirent « Jéhu est roi !» C'est la seule référence qu'on a dans l'Ancien Testament de vêtements qu'on pose sous les pieds de quelqu'un. Et puis Jéhu va faire ce qu'il sait faire, c'est le nettoyage. Il va prendre son char de combat et son arc, l'arc, pour éradiquer la maison d'Akab, et il va aller de victoire en victoire. Jéhu monta sur son char et partit pour Jizréel. Mais Jéhu saisit son arc et frappa Joram, fils de Jézabel, entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa sur son char. Voilà. Jéhu sur son char qui va de victoire en victoire, qui transperce les cœurs, qui tue des gens, qui fait le nettoyage, qui éradique la maison d'Akab d'Israël. Et le nettoyage se poursuit, je ne vous dis pas la suite, la disparition de Jézabel vaut le détour, et on a la fin de la famille d'Akab. Et si je n'entre pas dans les détails, c'est pour préserver la sensibilité de certains auditeurs ce matin, qui venu dans l'église pour avoir la paix. Mais Jéhu, c'est un peu comme, vous le reconnaissez, Jean Reno dans Nikita, le nettoyeur Jean Reno. À âme sensible, s'abstenir. Victor, c'est le nom de Jean Reno dans le film de Nikita, et Jéhu sont des violents. Et pire, ils sont efficaces. Et ils obtiennent des résultats. Il est violent, Jéhu, il est efficace et il est victorieux. Et comme pour Jéhu, la foule met des vêtements sous les pieds de Jésus alors qu'il entre à Jérusalem. Est-ce que les gens pensent que Jésus va faire le grand nettoyage ? Qu'il va liquider tous les étrangers romains, qu'il va voler de victoire en victoire contre les occupants ? Eh bien oui, ils s'attendent à cela. Il y a des textes écrits entre les deux testaments, intertestamentaires, donc qui ne sont pas dans la Bible, qui sont apocryphes, on pourrait dire, qui le disent assez clairement. Le psaume de Salomon, par exemple, nous dit « Regarde, Seigneur, et suscite-leur un roi, fils de David, et ceint-le de force pour qu'il brise les princes injustes et qu'ils purifient Jérusalem des nations qui la foulent et la ruinent. » C'est donc une attente partagée par un grand nombre, et ils le montrent en reproduisant le geste des amis de Jéhu, 9 siècles auparavant. Mais ce geste est complètement à l'opposé de l'annon, du signe de l'annon posé par Jésus et voulu par Jésus et préparé par Jésus. Les deux signes, celui de l'annon et celui des vêtements, sont en totale contradiction. Il y a un réel malentendu en ce dimanche des rameaux. Et ce malentendu n'est pas un petit quiproquo qui peut faire rire, comme ça arrive souvent dans nos conversations, dans nos vies. C'est un grand malentendu et on pourrait même parler d'un malentendu qui tue. C'est un malentendu qui tue. Dans une pièce de théâtre, Albert Camus, qui s'appelle « Le malentendu », il raconte l'histoire, un peu désespérée, d'un homme qui revient au pays après avoir fait fortune à l'étranger. Il est parti il y a très longtemps et une fois revenu, il s'arrête à l'auberge tenue par sa mère et par sa sœur. Et pour, je ne sais pour quelle raison, il ne cherche pas à se faire reconnaître. Il attend un petit peu, il veut faire durer le suspense. Et il va se coucher, mais comme elles le font parfois avec les voyageurs isolés, la nuit, les deux femmes tuent l'étranger pour s'emparer de sa fortune. Et au matin, elles sont désespérées et désemparées quand elles découvrent la véritable identité de leur victime. Sinistre méprise. Le malentendu à la Albert Camus, un peu. Hein, philosophie du désespoir, c'est un peu tristounet. Et le grand malentendu des rameaux est aussi un malentendu qui tue et qui tue d'abord Jésus. La foule qui met ses vêtements sous les sabots de l'annon en criant « Hosanna » dira quelques jours plus tard, quand Pilate demande « Que faire avec cet homme encombrant qu'est Jésus ?» La foule va répondre « Crucifie-le !» Et Pilate, l'homme qui se lave les mains très souvent, plusieurs fois par jour, va laisser faire, il va mener Jésus tout droit vers la crucifixion. Alors on ne sait pas trop si c'est la même foule qui dit d'un côté « Hosanna » une semaine avant et une semaine après qui crie « Crucifie-le ». On a de la peine à le croire parce qu'on se dit que l'écart est trop grand entre ces deux phrases. On ne peut pas imaginer que ce sont les mêmes individus qui prononcent ces paroles à quelques jours d'intervalle. Pas possible, se dit-on. En tout cas, si j'avais été dans la foule, je n'aurais pas fait ce grand écart. Mais ça pourrait être la même foule et ça pourrait être nous par la même occasion parce que les foules sont habituées au grand écart. Il est tout à fait possible dans l'histoire des mouvements de foule que l'on dise Hosanna le dimanche et que l'on crie à mort le vendredi. Tout à fait possible que la foule ait retourné la veste qu'elle avait déposée sous les pieds de Jésus et qu'elle l'ait fait d'autant plus vite qu'il y avait à l'origine ou à l'entrée un énorme malentendu. Elle s'attendait à une victoire à la Jéhu. Elle voit une arrestation, une condamnation, une énorme faiblesse, un échec lamentable. Et là, il n'y a plus, après la croix, il n'y a plus de malentendu, mais juste une énorme déception. La cause de Jésus est entendue. Il allait mourir à cause d'un malentendu. Il n'y a rien de plus versatile qu'une foule déçue dans ses attentes. Et on le voit dans l'actualité. On change d'avis comme de vêtements quand on est déçu des événements, quand il y a malentendu. On pourrait parler un instant du problème de la foule. Quelqu'un faisait remarquer que l'être humain, l'homme avec un grand H, a été créé individu, à la différence des animaux. On parle de la Genèse, et il créa les animaux. Mais il créa l'homme et la femme à son image, l'humain à son image, en singularité, en singulier. Il a créé les crocodiles, les moustiques et les hippopotames, mais il a créé l'homme, la femme, à son image en particulier, en tant que personne consciente de sa singularité. Et le problème avec la foule, c'est qu'elle est plus qu'une juxtaposition d'individus uniques et singuliers, elle a une dynamique propre. Et le pluriel des foules réveille l'instinct d'espèce, de meute, de horde, l'instinct grégaire, un peu animal, et il faut se méfier des mouvements de foule, ou en tout cas ne pas en être dupe. Se méfier et en sortir pour ne pas vivre et mourir sur un malentendu. Alors ce malentendu pour nous. En ce dimanche particulier, nous pourrions nous poser une question singulière, comment est-ce que j'accueille Jésus aujourd'hui? N'y a-t-il pas parfois des ambiguïtés dans mon attente? Ou du moins... Non, certains malentendus dans mon attente ou du moins une certaine ambiguïté. Même si je chante Hosanna qui, je vous le rappelle, veut simplement dire « bravo ». Est-ce que c'est une parole, ce qui est une parole vraie, qui est une parole juste, mais la question de savoir à qui et de savoir à qui je dis Hosanna. Jésus pose la question à ses disciples et c'est une question clé dans l'évangile. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et on peut se poser la question ce matin, en ce dimanche des Rameaux, qui est-il pour moi? Ou est-ce que je voudrais qu'il soit pour moi? Quelqu'un avec des super pouvoirs qui écrase tous ses ennemis à la GU? J'aime bien cette petite bande dessinée là. Il est entouré partout, Captain America et je sais plus, le Hulk, géant vert. Et Jésus raconte, voilà comment j'ai sauvé le monde, moi avec mes super pouvoirs. Est-ce que je m'attends à Jésus, à ce qu'il me guérisse de tous mes problèmes, qu'il me donne du succès dans toutes mes entreprises et dans celles de ceux qui m'entourent, qu'il va me permettre d'être victorieux dans ma vie, de réussir dans la vie? Dit-on bravo, Hosanna à ce Jésus-là? Et ce ne sont pas des attentes mauvaises. On peut même trouver des appuis bibliques pour ces attentes et on retrouve la même ambiguïté que celle de la foule massée à Jérusalem pour l'arrivée de Jésus. On retrouve peut-être chez nous ce même malentendu, un malentendu qui tue, qui va non seulement tuer Jésus dans l'histoire, mais qui va tuer ma foi, qui va tuer la foi. Parce que ce genre de foi d'un homme fort, puissant à la GU, là, qui va détruire tous mes problèmes et qui est plein de super pouvoirs, ne va pas dépasser le week-end de Pâques. Car si nous croyons à un Messie victorieux, ça nous renvoie à un Dieu que nous retrouvons dans les sommets et dans les victoires de notre histoire. Ça nous renvoie à un Dieu qui nous fait gagner, qui comble nos désirs, qui nous accorde la prospérité. Et ce Dieu est séduisant et nous comprenons qu'il attire les foules. Et ce Dieu nous parle tant que nous sommes du côté des vainqueurs, tant que les succès sont dominants dans notre histoire. Mais qu'est-ce que ce Dieu-là a à nous dire lorsque nous rencontrons l'échec, quand nous rencontrons la prière non exaucée, quand nous rencontrons la maladie, quand nous rencontrons la persécution? Ben, pas grand-chose. Et la foi qui repose sur cette lecture dure aussi longtemps que durent nos succès. Pour la foule de Jérusalem, elle n'a pas dépassé quelques jours. À Pâques, le malentendu avait non seulement tué Jésus, mais avait aussi tué la foi de cette foule. De l'autre côté, il y a un Jésus humble qui rentre dans Jérusalem, assis sur son ânon, qu'il a choisi, qu'il a préparé comme un symbole de son humilité. Jésus ne vient ni à Jérusalem ni dans nos vies pour voler de victoire en victoire, mais pour vivre un échec, et un échec retentissant, celui de la croix. Une abomination pour tous, grecs, juifs, romains. Jésus sur son ânon, c'est le rejet de la foule et la faiblesse de la croix, un échec cuisant, vécu dans sa chair. Mais dans cet échec, Jésus vient nous rejoindre dans notre faiblesse, dans nos échecs, dans nos fragilités et dans notre humilité à le reconnaître. Le dimanche des Rameaux, Jésus assis sur un ânon vient sur notre terrain, il vient à notre niveau, sur le terrain de notre faiblesse, de nos échecs aussi, et à ce niveau-là, qui est le nôtre, au niveau, au bas niveau, au rez-de-chaussée, voire même au sous-sol, Jésus nous dit quelque chose, nous dit qu'il partage nos souffrances, mieux encore qu'il les prend sur lui, avec lui, pour lui. Et la foi qui vient d'en bas, qui vient de ce Jésus monté sur un ânon, est une foi beaucoup plus solide que celle de la foule, elle va résister à toutes les tornades de la vie. Elle n'est pas basée sur un malentendu qui tue la foi. Elle est basée sur cette vérité de la bonne nouvelle de l'évangile, que Jésus vient nous rejoindre là où nous sommes. Qui allons-nous accueillir? Le Jésus victorieux sur son char d'assaut ou le Jésus humble qui vient sur son ânon? À qui allons-nous crier bravo ce matin? Hosanna! Et si nous profitions de ce dimanche des Rameaux pour lever tout malentendu, c'est toi, Jésus, dans ta faiblesse évidente à la croix du Vendredi Saint, mais qui est une force évidente le matin de Pâques, que nous voulons accueillir. Nous t'accueillons, toi, le roi serviteur, comme nous l'avons chanté, qui est venu jusqu'à nous pour nous donner la vie, la vraie, celle qui dure jusque dans la vie éternelle. C'est à toi et à toi seul, Jésus, que nous voulons dire bravo. Hosanna. Amen.